À la une, 800 pages et un déluge de chiffres, le budget 2025 du pays est arrivé à l'Assemblée, de la santé et du social avec la semaine ESS et du sport pour terminer avec de belles victoires en foot. Le journal de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
800 pages, 170 milliards de francs, le projet du budget 2025 du pays est sur le bureau de l'Assemblée.
Oui, et c'est un peu comme les INAA ou les œufs de Pâques. Tous les ans, à la même période, les documents budgétaires atterrissent en masse sur le bureau des élus de Tarahoy. Une saison un peu tardive cette année car ils sont arrivés vendredi après-midi, quelques heures avant la deadline réglementaire. Et depuis, tout le monde a les yeux rivés sur ce budget primitif et sur son déluge de chiffres. 170 milliards de francs de mouvement au total, 3 600 millions de francs de recettes supplémentaires. Et puis il y a ces 78 milliards de francs, c'est le total de charges structurelles obligatoires que le pays doit intégrer dans ses dépenses. On parle des charges de personnel, des transferts aux autres institutions ou encore des remboursements de la dette, des postes pour lesquels le gouvernement a peu de marge de manœuvre et qui pèsent de plus en plus lourd, les explications de Charlie René.
Oui, rappelez-vous, tout le monde s'inquiétait fin 2019 quand ces charges obligatoires commençaient à friser les 50% des dépenses de fonctionnement. Et bien 5 ans plus tard, elles en constituent plus de 62%. Près des 2/3 du budget sont utilisés avant même la moindre décision. De l'aveu même du gouvernement, il devient difficile de financer correctement les politiques sectorielles. Le problème, c'est que le seul point dans ces charges où l'exécutif a une capacité d'intervention, c'est la masse salariale. Moëté Brotherson avait fait de sa maîtrise un objectif phare et son équipe rappelle dans ce budget avoir pris des mesures présentées comme draconiennes. Et pourtant, cette année encore, les charges de personnel sont en augmentation, plus 757 millions par rapport au BP 2024, une trentaine de postes créés l'année prochaine. Le gouvernement n'est pas exemplaire en la matière, avec 86 millions de francs d'emplois ministériels en plus, et la présidence l'est encore moins. L'équipe personnelle de Moëté Brotherson, à la faveur de compétences élargies au dernier remaniement, passe de 7 à 18 personnes.
Alors dans ces charges structurelles, il y a aussi les transferts vers les communes qui sont en augmentation mécanique grâce aux bons résultats fiscaux. Il y a aussi le budget accordé à l'Assemblée en légère hausse à 2,5 milliards, ou celui de CESEC qui ne bouge pas d'un poil à 98 millions de francs. Mais il y a surtout le poids de la dette, Charlie René.
Et là aussi, il n'a jamais été aussi important. En 2025, le pays va devoir rembourser 17,5 milliards de francs à ses créanciers, en grande partie pour commencer à épurer les deux grands PGE contractés par l'équipe Fritsch pour amortir le choc du Covid. Le gouvernement Brotherson a bien remboursé en avance quelques 6 milliards de francs il y a quelques mois, mais ça ne suffit pas. Après un pic à 156 milliards fin 2022, la dette cumulée atteindra toujours les 145 milliards en fin d'année prochaine. Pas de risque immédiat pour la collectivité, rassure le ministère des Finances, qui rappelle que la Polynésie est endetté à 20% de son PIB contre 110% du côté de l'État. Reste que ces annuités limitent beaucoup les marges de manœuvre du gouvernement.
Et pour contenir ces annuités de la dette, l'exécutif explique qu'il pourrait allonger la durée de ses prêts et faire des emprunts plus ciblés. Ce projet de budget doit être examiné en commission puis adopté en séance avant le 31 décembre. On en reparlera dans vos prochaines éditions.
On ouvre notre page santé maintenant, Lucie, avec cette campagne de lutte contre la filariose à Moréa.
Après plus de 10 ans de distribution de masse du traitement contre la filariose, le taux de prévalence de cette maladie était inférieur à 1% sur presque tout le territoire de la Polynésie. Mais des enquêtes récentes ont montré une résurgence de cas à Moréa. Et vous le savez, la filariose est due à un ver transmis par les piqûres de moustiques et qui, au fil du temps, peut provoquer un lymphodème ou éléphantiasis. La direction de la santé relance donc une campagne de prise observée directe, appelée aussi POD, pour lutter contre la maladie à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre. Elle s'adresse à l'ensemble des résidents et des visiteurs réguliers en provenance de Tahiti, jusqu'à 22 000 personnes. 12 points de rendez-vous sur l'île et des agents qui iront aussi dans les établissements scolaires et sur les ferries.
Santé toujours avec ces travaux sur la rotonde de l'hôpital.
Fermé depuis 2017 pour malfaçon, le bâtiment va être consolidé et réaménagé. Cédric Mercadal et Jordi Chan étaient en visite de chantier vendredi. Après 6 années d'utilisation, le bâtiment avait été fermé, il menaçait de s'effondrer.
Lorsqu'on a été nommé, on a tout de suite lancé un appel d'offres pour pouvoir réhabiliter le bâtiment. Donc aujourd'hui, ce sont les travaux de confortement qui se matérialisent. On va appliquer le chemisage des poteaux, on va appliquer des plaques en carbone sur les dalles et on va également retirer des éléments de la toiture qui alourdissent aujourd'hui cette dernière pour stabiliser la structure. Ce sont des travaux qui coûtent 750 millions et qui vont durer jusqu'en 2025. Ensuite, il y a une deuxième phase de travaux en 2026 et qui, elle, portera sur les aménagements intérieurs pour être adaptés aux usages futurs du bâtiment et notamment à l'accueil de l'Institut du cancer de Polynésie française.
Vous venez d'entendre le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan. La rotonde refaite à neuf accueillera donc l'Institut du cancer de Polynésie française et le service d'oncologie et surtout ces nouveaux appareils de haute technologie, un TEP scan et un cyclotron. L'installation du matériel et des équipes est prévue pour fin 2026.
On poursuit ce journal avec une question. Le tapas peut-il devenir une filière viable? viable de l'économie sociale et solidaire en Polynésie.
Une question qui n'a pas encore trouvé de réponse définitive, mais pour Hinatea Colombani, qui défend et transmet cette pratique ancestrale dans son centre culturel Arioi, la réponse est oui. Elle présentait vendredi dernier les premiers résultats de l'étude de préfaisabilité menée pour l'Agence française de développement. Il s'agissait de réfléchir au développement de la filière tapas sous le prisme de l'économie sociale et solidaire, aussi appelée ESS. L'ESS est une nouvelle manière d'entreprendre. Ce n'est plus le profit qui est au centre de l'activité de l'entreprise, mais l'homme et la société. Cette présentation sur la filière tapas ouvrait une semaine dédiée à l'économie sociale et solidaire qui se poursuit jusqu'à jeudi. Tout le programme est sur notre site radio1.pf.
Et cette conférence aussi prévue la semaine prochaine sur les smartphones et les jeunes.
Le club de la sécurité de l'information, appelé aussi CLESIR, consacre sa conférence annuelle à l'utilisation des smartphones chez les jeunes à Tahiti. Parmi les intervenants, le psychiatre Romain Bourdon, le chef du centre de prévention et de soins des addictions, la psychologue fondatrice de Family Psy, Nathalie Collin-Fagotin, et le majeur Apahi Taha, spécialiste de la prévention du cyberharcèlement à la direction territoriale de la police nationale. Ce sera jeudi 28 novembre à partir de 16h30 à l'université. C'est gratuit, mais il est recommandé de s'inscrire. Et si vous souhaitez y assister, c'est sur le site du CLESIR.
Il est 7h06 et on reparle des Jeux Olympiques, mais côté mode et souvenirs maintenant.
Oui, les bâches des JO ont été récupérées par la Fondation Agir contre l'exclusion pour en faire des objets upcyclés. En août dernier, la Fondation avait déjà sorti des cartables et des trousses pour les écoliers défavorisés. Cette fois, les créations seront présentées lors d'un défilé de mode. Des œuvres collector qui seront vendues lors d'une soirée à la brasserie Hoa. L'occasion aussi de fêter les 8 ans d'existence de la Fondation. Ce sera le mardi 26 novembre.
On reste dans le sport, Lucie, avec cette vague de Tahitiens à Nazaré.
Le spot portugais connu pour son swell monumental chaque hiver a vu débarquer beaucoup de surfeurs polynésiens ces derniers jours. Le chargeur Tikanui Smith y est arrivé avec une équipe et doit y rester une bonne partie de la saison. Il avait fait une pause dans sa carrière l'année dernière.
Quand tu rentres dans ce milieu de sponsoring, moi ça faisait 12 ans que j'étais dedans à fond. Vers la fin des dernières années, il y a beaucoup de choses que j'ai fait en oubliant vraiment le plaisir, plus par devoir, car ils voulaient que j'aille là-bas ou que je fasse ci ou que je dise ça ou quoi. Et moi, vers la fin, je suivais ce mood, mais quand j'ai réalisé un peu tout ça après le Eddie Echo, je me suis dit ok, je veux vraiment penser à moi, faire les choses que je veux, revenir un peu dans la vraie vie, sachant que bien sûr j'avais envie de toujours chasser les grosses vagues, mais c'était, je pouvais plus, mes sponsors ne suivaient plus.
Et puis une rencontre va tout changer. Il raconte son histoire à Vincent Cardassic, un réalisateur et chef opérateur primé et réputé dans le milieu de la glisse. Celui-ci l'encourage alors à revenir à Nazaré avec d'autres défis. Tikanui Smith est donc de retour au Portugal où il tentera de prendre une grosse vague à la rame sans être tracté par un jet ski. Et c'est aussi la team Red Bull qui a aussi réuni sur place une bonne partie de ses champions et spécialistes du tow-in pour un camp d'entraînement. Kaoli Vast et son frère Nike, Michel Bourrez et aussi Tahurei Henry sont de la partie.
Du football maintenant avec cette belle victoire de l'AS Dragon sur Avranches samedi à Coupe de France.
Un exploit même car les deux clubs ne jouent pas du tout au même niveau, mais le coach du club de Titioro avait programmé le match à 14h, histoire de donner chaud aux Normands. Il avait prévenu, vous l'aviez entendu sur nos antennes. Et ce samedi, 30 degrés, un ciel couvert mais chargé en humidité, de quoi bien plomber les jambes et la tête. Et ça a visiblement fonctionné de partout à la fin du temps réglementaire. Puis 5-3, la séance des tirs au but, grâce notamment à un gardien bien en forme. On écoute Tamatoa Tetuira, le capitaine de l'AS Dragon.
On a essayé de les surprendre un peu parce que d'habitude, quand on joue sur des équipes plus élevées que nous, on les attend. Et là, on a essayé de les surprendre en allant chez eux, faire un pressing haut. Et ça a marché. À la mi-temps, on menait 2-0. Et après, c'est le professionnalisme qui revient au-dessus. Mais on a essayé de tenir la baraque. Et puis, bon, ça nous a apporté chance. Et à la fin, on remporte cette victoire. Et puis, je voulais aussi remercier notre gardien, qu'on le connaît tous. Joe Kipper, c'est un des plus forts ici. Et puis, voilà.
Le vrai héros donc de la rencontre qui arrêtera deux tirs alors que son équipe n'en loupera aucun dans les filets des adversaires. Le président de la section football de Dragon reconnaissait sa surprise du niveau des joueurs et du résultat.
Et c'était pas gagné du tout, vu le niveau des joueurs de Avranches. Ils ont fait une préparation extrêmement sérieuse. Je peux dire qu'ils se sont préparés cette semaine, spécialement à midi, 3 ou 4 fois, dans des conditions difficiles et donc physiquement, ils en voulaient. Et donc je crois que quelque part, si on voit la physionomie du match, c'est pas volé. Et nous sommes les premiers à être surpris de la prestation.
Robert Anso était au micro de Charlie René. Prochain match contre Cabourg le 30 novembre prochain, mais cette fois dans le froid car la rencontre est prévue en métropole.
Et on termine avec une autre victoire, celle des Toaito.
Ils ont battu le Vanuatu dimanche 2-0. Ils sont donc qualifiés pour la demi-finale du tournoi océanien et toujours dans la course pour avoir leur ticket pour la Coupe du monde de football de 2026. Ils devront battre la Nouvelle-Calédonie. Ce sera au mois de mars prochain en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information dans quelques minutes pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, c'est le moment de retrouver votre météo maintenant sur Radio.